Lundi 11 juillet 2016, bonjour à vous toutes et vous tous. Je suis ravie de vous retrouver en ce beau lundi après cette fin de semaine très, très pluvieuse et froide sur Montréal. Ben, ça permet aussi de se reposer, de ne pas s'imposer des sorties. On dit, de toute façon, il ne fait pas beau, ce n'est pas de ma faute. Puis là, ben, on regarde perdre les uns et les autres. Et puis voilà, quoi. Puis après, on débouche une bonne bière et on vous retrouve de bonne humeur. Et en pleine forme dès le lundi matin pour vous présenter les voies de service sur Canal M. Mais si c'est Clotilde Seille qui vous parle, vous savez qu'elle ne sera pas toute seule ce matin. Je m'entoure toujours de collaborateurs. En été, ça change un peu. Les voix varient un petit peu de ce que vous aviez l'habitude d'entendre durant la saison régulière. Comme par exemple, l'ami Jean-Sébastien a pris des vacances bien méritées avec sa petite famille. Mais du coup, ça nous permet de mieux faire connaissance avec Maurice Bolduc. Ça va bien, Maurice?
Oui, bonjour. Oui, toi-même?
Oui, très bien, très bien, très bien. Merci.
Et juste pour revenir sur ton week-end, c'est toujours une question de perspective. On les voit perdre ou on les voit gagner.
Oui.
Tout dépendant.
Oui.
Certains, s'il y en a qui ont perdu, d'autres ont gagné.
Oui, absolument. Mais dans le cas de Raonic, mettons que ça nous a fait un petit peu de peine quand même, on aurait...
Mais c'est sa première.
Mais il a quand même 25 ans. Mm-hmm. Il a pu... ça a l'air fou à dire, mais au tennis, il a pu toute sa vie devant lui, là, mais quand même, ça a été formidable. Quant aux Français, les amis, n'en parlons même pas. Moi, je vais vous dire très honnêtement, il y a plein de copains qui m'ont écrit, qui m'ont dit, tu dois être triste. Et j'ai répondu à tout le monde, s'ils avaient gagné, j'aurais eu honte. Ah. Ils ont tellement pas joué, là.
J'ai pas suivi, donc...
Non, mais moi, j'ai très, très suivi ça. Puis, vraiment, ils ont tellement pas joué hier. Ils se sont tout simplement pas présentés sur le terrain. Alors, et les autres non plus, d'ailleurs. Mais bon, la différence, c'est que les autres en ont rentré un et pas les Français. Je suis donc très contente pour le Portugal. Cela étant dit, l'éphéméride aujourd'hui, Maurice.
Oui, en ce 11 juillet. Une drôle de journée mondiale. C'est la journée mondiale de la population. Donc, c'est la journée mondiale à tout le monde, faut croire.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Dans 89, c'est le conseil d'administration du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, qui a recommandé de faire le 11 juillet de la journée mondiale de la population parce que 2 ans plus tôt, on atteignait le 5 milliards, j'allais dire de dollars.
Non.
Le 5 milliards de population, donc sur la Terre. Et ça, c'est dans le but de toujours garder l'attention sur l'urgence et l'importance des questions de la population. Donc, notamment pour le cadre des plans, des programmes généraux de développement et sur la nécessité surtout de trouver des solutions. Donc, c'est la journée pour y penser aujourd'hui.
D'accord.
Trouvons des solutions. Ce qui s'est passé le 11 juillet, hier c'était l'Euro au soccer. En 2010, c'était le Mondial du soccer où l'Espagne gagnait devant les Pays-Bas 1-0. Donc, c'était l'effervescence en 2010. En 1990, 10 ans plus tôt, à Oka, le caporal Marcel Lemay de la SQ de la Sûreté du Québec est tué lors d'un assaut face au retranchement Mohawk. Et ça marque le début de ce qu'on a appelé la crise d'Oka, donc avec le pont Mercier qui a été fermé jusqu'au mois de septembre de la même année. En 1987, oui, je viens de le dire, on a atteint le 5 milliards d'humains.
D'humains,
voilà, oui, j'ai une fixation. Hein. En 1906...
Vous devriez jouer à la 649, je pense, peut-être.
Peut-être, ou au D, qui sait. Donc, en 1906, le dimanche devient légalement jour de repos au Canada. Mais c'était renversé par la Cour suprême, donc il va invalider la loi en 1985. Je présume, disant, vous avez quand même le droit de, si vous ne travaillez pas, oui, mais si vous avez à travailler, mais travaillez quand même. Là.
Ne serait-ce que pour faire marcher le commerce quand même. Nous sommes dans une civilisation.
Entre autres.
Économique.
Toujours.
De business, hein? Il faut que ça roule.
Et pour terminer, en 1553, c'est le pape Clément VII qui excommunie le roi Henri VIII d'Angleterre, qui, lui, va fonder la religion anglicane. Donc, ça va être c'est là que ça scinde pour les catholiques en 1553. Ils sont nés le 11 juillet. L'acteur Yul Brynner, né à Vladivostok, en Russie, donc. Et Normand Lester aussi, journaliste ici très connu, donc journaliste d'enquête québécois. Ils nous ont quittés à la même date. Laurence Olivier, l'acteur britannique. Le ministre de la Justice, Guy Favreau. Donc, on a encore un...
Oui, le centre.
Oui, ici, le centre Guy Favreau.
Oui, oui.
Et le compositeur américain, George Gershwin, quittait en 1937.
Tiens, on pourrait peut-être se mettre un petit peu de Gershwin ce matin.
Oui, on va regarder ça. Ouais.
Un petit peu de Porgy and Bess, par exemple.
Oui, on va regarder ce qu'on a.
I love you, Porgy. Par exemple, moi je vous dis ça, vous faites bien ce que vous voulez, mon ami. C'est vous qui avez les petites manettes et les disques derrière vous. Et...
On va chercher.
Voilà, on va chercher. Alors, je vous rappelle que vous écoutez Clotilde Say, Maurice Bolduc et tous les autres collaborateurs à l'émission Les Voix de Service sur Canal M. On y va tout de suite avec la une de la presse. Alors ce matin, mais faute peut-être d'actualité, on revient sur les inondations du Richelieu. 5 ans plus tard, la longue traversée, les inondations historiques de 2011 ont laissé des cicatrices dans le paysage et dans le cœur des riverains. Des résidents racontent avec émotion leur lutte contre la montée des eaux et leur lent retour à une vie normale. Également à la une de la Presse Plus ce matin, cœur de pirate a conquis. Les plaines pose la vie numérique des jeunes ados, pré-ados et réseaux sociaux. Je suis quasiment sûre que Marie Lalande va se jeter là-dessus, peut-être bien. Série Histoire des îles, Histoire d'îles d'ailleurs, c'est tellement cute ça. La semaine dernière, j'évoquais un postier qui, assez frais littéralement, livre le courrier. Bien, là on parle d'un homme, il n'est pas tout seul, qui récolte le duvet des canards dans une île. Ici, du Québec. J'en parle plus tard. Et puis, cette photo des Portugais qui se congratulent, le Portugal maître du Stade de France. Ouah. Bref, ils ont remporté cet Euro 2016 dans un match d'une platitude, mais d'une platitude. Je te passe la baballe, repasse-moi la baballe. Tiens, je vais la repasser à l'arrière en espérant que mon gardien va la mettre en avant. En tout cas, une platitude infinie, mais finalement, ce sont les Portugais qui ont été couronnés. Alors, je me réserve quelques sujets pour l'heure que je vais passer un petit peu plus tard avec Serge Hamelin, entre autres. Il y a des très beaux sujets dans la Presse Plus. Sur les juillet 52, 1852, alors que Montréal est plongé en pleine canicule et qu'un incendie éclate. Je vais revenir aussi sur l'or gris de l'île Blanche, sur le duvet des canards. Mais pour le moment, allons-y avec quelques articles d'actualité ou non que l'on peut retrouver dans la Presse Plus. D'abord, un sujet scientifique, entre guillemets. La marijuana diminue la satisfaction liée au plaisir de la vie, mes amis. C'est Philippe Mercure qui écrit ça. Manger un bon repas, gagner de l'argent, avoir une relation sexuelle, ces expériences stimulent les centres de récompense du cerveau qui génèrent alors un sentiment de satisfaction et de gratification. Mais cet effet est diminué chez les consommateurs de marijuana, ce qui pourrait pousser certains d'entre eux à compenser le manque de satisfaction en consommant davantage de drogue, et c'est ce que nous montre une étude réalisée par des chercheurs américains et publiée dans JAMA Psychiatrie. Selon les auteurs, ces conclusions montrent que la marijuana n'est peut-être pas aussi inoffensive qu'on l'a décrit. Alors que certaines juridictions ont légalisé la marijuana et que d'autres songent à le faire, je crois qu'il est important que les citoyens soient conscients des conséquences à long terme de l'usage de la marijuana, de dire Elisa Trucot, professeure adjointe en psychologie à la Florida International University de Miami. Et elle est l'un des auteurs de cette étude. Alors, le niveau d'activation des centres de récompense varie d'une personne à l'autre. Certaines sont très excitées à l'idée de gagner de l'argent, d'autres moins. Mais les chercheurs ont montré que cette activation s'atténue chez les jeunes adultes qui affirment consommer de la marijuana. Plus la consommation de marijuana est élevée, moins il y a d'activation dans le cerveau en réponse aux récompenses, précise Elisa Trucot. C'est quand même dommage de se priver d'un bon verre de vin ou d'une bonne nuit d'amour simplement parce qu'on prend de la marijuana. Oh, allez, lâchez-moi ça, les amis, lâchez-moi ça. En bref, Bref, maintenant, Griffintown inaugure son premier parc familial, écrit Sarah Champagne dans la presse. Près de 10 ans après l'annonce de sa transformation complète, le nouveau quartier Griffintown, situé près du fleuve, a son premier parc familial. C'est la première étape d'une longue démarche pour doter le quartier habité par de jeunes professionnels de services de santé, mais aussi d'une école primaire et de services de garde subventionnés. Et quelques papiers également d'actualité. La voie de contournement des Mégantiquois réclame l'intervention de Trudeau. Des centaines de citoyens de Lac-Mégantic ont manifesté hier afin d'exiger l'intervention du Premier ministre Justin Trudeau pour la mise en place d'une voie de contournement ferroviaire. La coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire ne fait plus confiance au ministre fédéral des Transports Marc Garneau et réclame l'intervention directe du Premier ministre. Post-Canada retire son avis de Lockhart pour pouvoir mieux négocier. Eh bien, pendant ce temps-là, un retraité lance un recours collectif contre Post-Canada. Un retraité de Post-Canada atteint de la maladie de Parkinson part en croisade contre la société afin d'obtenir un remboursement de plusieurs milliers de dollars pour ses médicaments. Il intente un recours collectif au nom de quelques 25 000 travailleurs et retraités de la société fédérale. Quand ça va mal, ça va mal. Bon, et puis les constables. Retour de l'uniforme complet. Les agents de la paix québécois porteront leur uniforme complet dès aujourd'hui en signe de bonne foi à l'égard du gouvernement. Le syndicat hier a annoncé qu'il avait ordonné à ses membres de suspendre temporairement leurs moyens de visibilité et de porter l'uniforme complet. Mais le mal est fait, hein? On va les prendre pour des clowns pareils. Parlons de sport un petit peu, une fois n'est pas coutume, et parlons du rêve de Raonic, bon, bah, qui est tombé hier. Il a finalement été battu, et de brillante façon. Il n'a rien à regretter contre Andy Murray. Il était vraiment plus fort, Andy Murray. Il y avait rien à faire contre lui hier. Et Raonic, ben, on a payé les frais, mais quelle belle réussite pour ce jeune homme de 25 ans. Qui tentait de devenir le premier Canadien champion d'un tournoi du Grand Chelem en simple, qui a offert une superbe opposition à son rival pendant plus de 2h45, même s'il a visiblement été ralenti par la pression. Oui, c'est vrai qu'il a été beaucoup moins solide au service. Il a surtout été déjoué par la qualité du jeu de son adversaire. Écoutez, généralement, dans un match de tennis, il y a toujours un moment donné ou un autre où il y a un fléchissement de la part de tous les joueurs. Tout d'un coup, ils se mettent à mal jouer. Eh bien, avec Andy Murray, ça n'est jamais arrivé. Et donc, le pauvre Raonic, eh bien, s'est frappé littéralement à un mur. Mais j'ai été contente de voir ce bonhomme hier, quand même souriant. C'est ce type à qui on reproche d'être toujours le premier de classe et tout, qui sourit jamais. Vous savez que ce type-là est simplement un type franchement extraordinaire. Vous savez ce qu'il fait, lui, dans les villes, pendant que les autres se reposent dans leurs hôtels et tout ça? Il s'en va visiter les musées. Il s'en va voir à quoi ça ressemble, l'architecture, il profite d'être là. Ben, ça m'a plu, moi, ça. Alors, bravo Raonic pour l'attitude. C'est pas grave pour cette défaite en finale. Il y en aura d'autres, là. Il y en aura d'autres. Puis comme c'est les vacances, j'ai envie de vous lire un billet vie domestique écrit par Hugo Léger ce matin. C'est sorti dans la presse plus. Ça s'appelle « C'est stressant les vacances ». Si je pouvais, je ne partirais jamais en vacances. Stop, rewind, précisons, je partirais en vacances. N'ayez crainte, la presse et moi dormons collé-collé, mais sans avoir à partir. Nuance. Mes départs calamiteux dans 100% des cas, sans aucune marge d'erreur, font craindre le pire pour l'avenir de mon couple, de ma famille et de mes vacances. Il faudrait déjà que je sois déjà arrivée pour partir sur une bonne note. Téléportez-moi quelqu'un afin de ne pas imposer mes humeurs à mes proches qui le sont de moins en moins d'un été à l'autre. Ces matins-là, immanquablement, me promettant pourtant d'être une soie, je me transforme en monstre. Donc, vous l'avez compris, les matins des départs en vacances. Comme si tout le stress, dit Monsieur Léger, accumulé durant l'année, se déchaînait à ce moment précis. Moi, l'escargot, je deviens plus impatient que Michel Terrien quand Piquet se faisait prendre à contre-pied en zone adverse. Si je pouvais, je confierais la gestion du départ à une firme spécialisée. Appelons-la « Departure Plus ». En anglais, ça fait plus sérieux. Elle bouclerait la valise parfaite, trouverait le jeu de... B-O-C-C-E. N'oublierait pas le sirop d'érable, s'assurerait que le lunch pour la route contienne assez de petites carottes coupées. Les responsables me prieraient de m'asseoir comme un petit vieux sur une chaise de plage et d'admirer leur travail, que j'applaudirais aussi fort qu'une otarie. Mes départs en vacances sont de faux départs, en fait. Vous savez, comme ces coureurs ou ces nageuses qui essaient de voler le signal et qui ramènent tout le monde à la case départ, j'essaie de tout faire trop vite. Dans cette dernière phrase, il y a les mots « tout » et « trop ». Parce que j'en ai plein les bras. Trop parce qu'en partant, je suis prêt à apporter le lave-vaisselle. Pourtant, on ne part pas pour l'Ouzbékistan. C'est pas grave d'oublier la crème solaire. Il y a de la crème solaire à Ogunquit, bel endroit près de la mer, en Abénakis ou Chris, j'ai oublié mes gougounes en québécois. Au petit matin, tout va bien. Je me lève, le sourire aux lèvres, plus optimiste qu'un témoin de Jéhovah devant un futur candidat à la résurrection. J'ai hâte, on va passer deux semaines formidables. Et là, ça dégénère. Où il est le parasol? Lequel? Le parasol, tu sais, parasol. Ben, relax, on part en vacances, mon chéri. Ah, tu m'appelles jamais mon chéri, lâche-moi le mon chéri. Pourquoi je m'énerve de dire Monsieur Léger? Pour toutes sortes de raisons. Tiens, la première, la fondatrice, on part tôt, qu'on se promet, des jours avant la date fatidique. 7 heures, sans faute, on décolle pour éviter la file à la douane, pour arriver les premiers sur la plage, vieux gag. Et à 9h20, on finit mollement de paqueter la voiture et... Là, ajoutant à l'agencement détails intimes, tout le monde part, mais pour faire son petit pipi l'un après l'autre à la queue-leu-leu. Tous les mauvais souvenirs remontent alors à la surface, la fois du passeport périmé, la fois où le shérif nous a arrêtés, la fois où. Faut dire qu'en général, je déteste les départs. Le départ d'une soirée, par exemple, quand il faut trouver l'oxygène nécessaire pour survivre à 6 dans un portique et que l'on décide d'en découdre avec les politiques du gouvernement libéral en matière d'éducation, une tuque enfoncée sur la tête, on a tellement l'air crédible. Le départ à l'aéroport aussi, le scénario est mélo à la base. Il, elle, il décolle, je, nous, on reste plantés là. On fait des tatas à n'en plus finir. Eux, ils partent en voyage avec nos tatas et nous, on reste là comme des tatas. Mais revenons à nos vacanciers. D'ordinaire, je retrouve un semblant de normalité une fois passé Burlington en entrant dans les Green Mountains. Parce qu'avant, il y a eu la frontière qui porte bien son nom. Comprendre, c'est ici que le fun s'arrête. Connaissez-vous un personnage plus engageant qu'un douanier américain? Eh bien, à côté, Stéphane Dion a l'air d'un amuseur public. Bon, j'arrête, je ne veux pas gâcher la fête de ce que doivent être les vacances. Et vous le savez aussi bien que moi, il y a pire que les départs en vacances, de conclure M. Hugo Léger. Il y a les retours. Alors à la une du Devoir ce matin, Poste Canada qui retire son avis de lockout pour mieux négocier, on nous présente un papier qui s'intitule « À la rencontre des rues et des boulevards, véritable squelette de la ville ». Très intéressant, mais très imposant papier aussi que malheureusement je crains de ne pas avoir le temps de vous lire ce matin. Également, délai de procès, la justice québécoise sous pression, plus de moyens pourraient être nécessaires pour éviter la fin abrupte de procès. Mise au point, ça c'est le lundi, ça va remplacer un peu le devoir troc, si vous voulez, le point chaud pour cette mini-série d'été qui va s'appeler Mise au point. Et oui, il va s'agir de points, de virgules, de points d'exclamation, etc. De tous ces signes de ponctuation qui gâchent la vie de certains. Et on commence aujourd'hui avec le point-virgule. Je vais revenir là-dessus dans quelques secondes. Et puis le Portugal, c'est le gros titre à la une du Devoir ce matin. Le Portugal tient enfin un premier titre. On voit en photo l'attaquant Éder, numéro 9, qui a marqué à la 109e minute, provoquant l'euphorie de ses coéquipiers sur le terrain du Stade de France. « Alors, ce que Jean Dion a à nous dire de cet Euro 2016 et de cette victoire remportée par les Portugais, il écrit « Alors que l'équipe du Portugal et lui-même connaissaient un début d'Euro 2016 plutôt ordinaire, Cristiano Ronaldo a souligné que l'important dans un tournoi de ce type consiste à monter en puissance et à se trouver à son apogée quand ça compte le plus. » On peut tout perdre en phase préliminaire, mais on ne peut pas tout y gagner. Le capitaine de la Chelechao a vu juste, et même si privé de ses propres services pour l'essentiel du match, ses coéquipiers ont trouvé le moyen de serrer les coudes et de conquérir le titre de champion d'Europe des Nations avec une victoire de 1-0 contre la France, après prolongation en grande finale dimanche au Stade de France. C'est donc un but de l'attaquant Eder, qui joue en club à Lille, à la 109e minute, il va se faire bien recevoir quand il va retourner jouer en France, en période supplémentaire, qui a dénoué l'impasse dans une rencontre partagée où les quelques bonnes chances de marquer s'étaient jusque-là butées, soit des gardiens vigilants, soit un poteau, soit une barre transversale. Ça, ça a été un sport national pendant cet Euro-là. Le nombre de fois où les tirs n'ont jamais atteint la cible ou frappé le poteau, c'était acquis, je pense. À mon avis, ils avaient une prime. Si tu frappes le poteau, là, on te donne 500 000 $. Voilà. D'une vigoureuse frappe du pied droit d'une vingtaine de mètres, le joueur originaire de la Guinée-Bissau, qui inscrivait ainsi son tout premier filet, écrit toujours M. Dion en compétition, a atteint le fond de la cage alors que le gardien Yoris se plongeait en vain sur sa droite. Alors, contre toute attente, la Chelechao a accompli l'exploit après avoir dû encaisser le choc du retrait du match de son as et leader, M. Ronaldo, contraint à la 25e minute de déclarer forfait en raison d'une blessure. Bon, chose certaine, l'équipe portugaise, dit Dion, doit une fière chandelle à Rui Patricio pour ce gain en match ultime. Le gardien s'est dressé avec aplomb lorsque l'adversaire a frappé à la porte. Il a dit non deux fois à la 10e minute à une tête d'Antoine Griezmann, etc., etc. Bref, de toute façon, il vous raconte un match. On a l'impression que ça a bougé beaucoup. Mais voyez-vous, il parle de la 10e minute. Et c'est vrai que le premier quart d'heure a été très, très intéressant. C'est après que ça s'est gâté, et quand on pense qu'un match de foot, ça dure 1h30, je ne vous raconte pas comment ça nous a semblé long. Alors bravo, bravo aux Portugais, je suis contente pour eux, c'est la première fois qu'ils remportent cette compétition, et ça c'est formidable. Alors, Post Canada a abandonné dimanche soir sa menace de lock-out pour lundi. La société d'État a retiré son avis de lock-out de 72 heures lancé la semaine dernière. Elle a indiqué par voie de communiqué que le service postal ne sera pas interrompu pendant que les pourparlers continuent. Donc, si vous vous inquiétez en ce moment, arrêtez de vous inquiéter. Vous allez recevoir votre courrier si vous faites encore partie des gens qui attendaient soit des chèques ou des choses comme ça dans la boîte aux lettres, eh bien, vous allez les recevoir. Alors, le point virgule. Vie et survie du point virgule. Ah là 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 là. Au top 10 des signes de ponctuation, voici le bon dernier de la liste. Il n'y a pas de journée mondiale de la ponctuation, écrit Stéphane Baillargeon, et c'est bien injuste. Allons-y donc plutôt avec le 8 septembre, journée internationale de l'alphabétisation. À cette date symbolique, l'an dernier, Le Devoir publiait 51 textes, l'équivalent d'un petit livre, avec des milliers de mots et des dizaines de milliers de signes, et pourtant pas le moindre point-virgule. Ce jour 1, Le Monde publiait 97 textes, le point-virgule y apparaît une dizaine de fois. Dans un article sur la Mostra de Venise, il sert à diviser la présentation d'acteurs par ordre de leur entrée en scène sur le tapis rouge du Lido. Point virgule. Dans un texte sur le design branché de Paris, il sépare les expositions présentées à la queue leu-leu. Point virgule. Dans une analyse de la probable candidature de François Hollande à la présidentielle de 2017, le signe sépare les constats d'un conseiller politique. Point. Ce n'est pas rien, c'est même mieux que rien, mais ce n'est pas beaucoup non plus. L'usage du point-virgule est en régression et c'est même un des signes de ponctuation les moins utilisés, dit au Devoir Olivier Houdard, réviseur au site lemonde.fr. Le constat était déjà dans son livre « La ponctuation ou l'art d'accommoder les textes » paru chez Seuil, écrit avec sa compagne Sylvie Prioul. Eux aussi ont fait des comptes et des comptes dans la presse. Une journée de 2005 dans le journal L'Humanité ne leur a permis d'en dénicher qu'un seul, réfugié dans l'édito, alors que tous les autres signes y étaient largement représentés. Force est de constater qu'il n'a pas le vent en poupe et qu'il fait partie, comme l'imparfait du subjonctif ou le passé simple, des finesses menacées par l'appauvrissement de l'expression écrite. Monsieur Houdard signale aussi la disparition quasi complète dans la presse du tiret de relance. Ce signe de fin de phrase, un stylème, aussi flaubertien que le point-virgule, ne semble guère plus utilisé que par quelques olibrius du clavier, et la faute incombrait à l'écriture ramassée et efficace, de plus en plus prisée partout. Les fioritures et les phrases à penture n'ont plus tellement la cote. Le style, c'est l'homme ou la femme, mais c'est aussi l'époque, la nôtre, hypermobile et uber branchée, qui se projette, commode, laconique et opérante, pour ne pas dire circonspecte, élémentaire et triviale. Alors, traditionnellement en français, ce signe du point-virgule sert à donner de l'ampleur à la phrase, alors développée en plusieurs étapes, séparées et en même temps liées par le point-virgule, souvent utilisé en groupe. C'est pour ça que ça nous mêle. Ce signe sert de séparateur dans une énumération, après les traditionnels deux points. Mais il peut aussi diviser des propositions indépendantes en liaison et même remplacer la virgule pour éviter des confusions dans une phrase qui en fait grand usage. Par exemple, et là je laisse l'article, si on dit que les voies de service sont présentées par Clotilde Seille et quelques collaborateurs. Deux points. Maurice Bolduc prend en charge l'éphéméride. Point virgule. À 9h30, telle et telle personne viennent lire des papiers émanant d'articles, de magazines, de blogs, etc. Point virgule. À 10h30, Clotilde Seille revient pour le journal de Montréal. Voyez-vous, parce que là, il y a énumération. La petite histoire du point virgule en cinq temps. À l'Antiquité, figurez-vous que le point virgule est utilisé un peu comme un point d'interrogation. En grec moderne, il sert d'ailleurs encore à signaler une question, il remplace le point d'interrogation. En 1494, premier usage connu en imprimerie du punctum, semicirculo punctum, par Aldus Manutius, prince des éditeurs vénitiens, au moment où la province italienne produit le quart des ouvrages imprimés en Europe. En 1547, apparition du point-virgule en français dans le recueil de vers « Les Marguerites » de la Marguerite des Princesses, recueil de Marguerite de Navarre. En 1811, dans la grammaire des grammaires de Giraud du Vivier, référence de Flaubert, grand maître du point-virgule et de la ponctuation comme affaire de rythme, ce signe est défini comme marquant une pause plus forte que la virgule et codifié comme outil de séparation syntaxique, de dépendance et de complétude sémantique. Et puis en 2013, lancement à l'aide des réseaux sociaux du Semicolon Project, pour encourager les anciens toxicomanes à se faire tatouer un point-virgule en signe de reconnaissance vitale. On voit d'ailleurs à la une du Devoir un point levé et on voit ici sur le poignet, là, dans le gras, là où c'est tendre, on voit un point-virgule qui a été imprimé. Voilà pour la petite histoire du point-virgule, en espérant que ça vous a éclairé un peu. Dans quelques minutes, des premiers collaborateurs. Vous...
Fais-toi plus belle pour la fête au village. Fais-toi plus jolie pour la fête au village.
Et je serai la plus belle pour toi, mon amour. Et je serai la plus jolie pour toi, mon chéri.
Fais-toi plus belle. Pour la fête au village, fais-toi plus jolie. Pour la fête au village,
je serai la plus belle. Pour toi, mon amour,
je suis un paysan, un cultivateur. J'ai dans mon champ du riz, 10 000 et des maïs. J'ai aussi dans mon champ du coton, des folions et des haricots. Des haricots dans mon champ pour les Kitakouani. Des haricots dans mon champ pour les dames et les tarawere. Des haricots. haricots dans mon champ, on les connaît les jarras. Des haricots dans mon champ, on les trouverait sans maquiller. Fais-toi village, fais-toi plus jolie pour la fête au village.
Je serai la plus belle, pourtant mon amour, je serai la plus jolie pour toi mon chéri.
D'autres viendront en moto, d'autres sur des vélos, d'autres dans les bateaux et d'autres dans des trains. Certains dans les camions pour la fête au village.
Je serai la plus belle, pourtant mon amour, je serai la plus jolie, pourtant mon chéri.
Je mettrai mon joli soulier, mon joli pantalon, ma belle veste, ma belle chemise, ma belle cravate pour te séduire. Nous allons chanter, nous allons danser, nous allons nous dire des jolis mots d'amour. Nous allons danser, nous allons nous dire des jolis mots d'amour. Fais-toi plus belle pour la fête au village. Fais-toi plus jolie pour la fête au village. Fais-toi plus belle pour la fête au village. Fais-toi plus jolie pour la fête au village.
On vient d'entendre Amadou et Mar la fête au village.
Merci beaucoup, mon ami Maurice, et bonjour Serge.
Bonjour Clotilde. Bon lundi matin, le roi, oui. La reine et son petit prince.
Non, mais c'est vrai, oui, ils sont arrivés. Mais c'est vrai que j'avais un petit côté bonjour les amis.
Ben oui, franchement. Tu serais une animatrice formidable dans une garderie.
Ah non, lâchez-moi avec ça, s'il
moi,
vous plaît.
Moi, ça me rajeunit de t'entendre.
Oui. Oh!
Oui.
Alors, vous n'avez pas dû.
Non, je n'ai
beaucoup,
pas dû.
Hein, le petit train hier? Parce que...
Non, j'avais un congé d'arrière-train.
Ah, puis de toute façon, avec le temps pourri qu'il a
oui,
fait,
c'est ça. Puis ça a donné à l'occasion à ma peut-être hernie discale.
Oui, de se reposer un peu.
Calmer, oui.
Parce que, mes amis, si vous voulez rencontrer Serge en personne...
Ou en personne.
Et lui demander un autographe...
Ah ben non.
Eh bien, toutes les fins de semaine, lorsqu'il fait beau et que la hernie discale ne l'enquiquine pas, eh bien, il conduit le petit train du parc La Fontaine.
Oui, depuis 5 ans déjà, hein. Tous les étés, tous les week-ends.
Et vous savez quoi? J'en ai rêvé cette nuit. Ah. Tout d'un coup, ça vient de me revenir.
Ah ben, dites-moi.
Mais oui, c'est moi qui le faisais.
Oui, mais justement, ils cherchent des conducteurs et conductrices. Alors, si jamais vous êtes intéressés...
Non, mais c'est drôle. Puis là, je savais plus comment vous disiez. Puis je savais plus comment on disait. Allez, on embarque ou je ne sais pas quoi.
Oui, en voiture.
Oui, en voiture.
All aboard.
Alors, vous imaginez avec cette belle voix-là. Mais oui, mais oui. En tout cas, je vais vous accueillir comme il se doit, en musique.
C'est gentil.
Vous parlez de quoi aujourd'hui,
bon,
mon ami?
On va commencer par l'acné.
L'acné juvénile?
Ben, voilà.
Bon.
Voilà. Si l'acné est souvent un problème de l'adolescence, ça c'est tiré du merveilleux livre de la docteure Sarah Brouwer, qui s'appelle « Aliments, remèdes, prévenir et soulager 50 problèmes de santé ». Malheureusement, elle ne parle pas du sciatique. Bon. Si l'acné est souvent un problème de l'adolescence... Sa persistance, voire son apparition à l'âge adulte, est de plus en plus fréquente.
Ah, tiens donc. Ah,
et moi, cela ne me surprend guère.
Non, c'est à cause des crèmes, je suis sûre, non?
À cause du sucre.
Allons.
Une mauvaise alimentation peut aggraver les symptômes, mais pas le chocolat.
Ah.
Bon. L'acné est une affection cutanée inflammatoire provoquée par l'infection de follicules pileux bloqués sous la peau lorsque les glandes sébacées sécrètent du sébum en excès sous l'influence d'hormones androgènes. Voulez-vous que je vous répète ça?
Non, ça va, c'est bien. Parce les que là, cellules... on comprend pourquoi les adolescents
bon,
sont
alors,
plus...
les follicules, les glandes, c'est bon, bon. Alors, les cellules cutanées se divisent aussi plus rapidement et peuvent bloquer les follicules pileux emprisonnant le sébum. C'est ce qui provoque l'apparition de gros points noirs ou blancs. La modification de l'acidité de la peau accentue la prolifération de la bactérie. Tenez-vous bien, Propionibacterium acnes, qui se nourrit du sébum bloqué et déclenche l'inflammation. Mm. Il y a trois types d'acné. Je ne veux pas ça, moi.
L'acné, c'est pour ça que les jeunes, excusez-moi, mais les jeunes sportifs, ils sont totalement vérolés, c'est parce qu'ils transpirent beaucoup?
Ah, l'acné légère.
Ah, bon.
L'acné modérée.
Oui.
Et l'acné grave.
OK.
L'acné légère, avec une prédominance de comédons sous forme de points blancs lorsqu'ils sont fermés ou noirs s'ils sont ouverts. L'acné modérée, avec une prédominance de lésions inflammatoires comportant des pustules et des papules.
Oh.
Et l'acné... Une chance qu'on va finir ma chronique avec l'huile d'olive.
Oh, 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 oh.
Ça va être plus savoureux. Et l'acné grave, avec le développement des nodules et de kystes, de papules et de pustules inflammatoires. Bon. Alors, l'acné en 7 points.
Oh.
Vous êtes toujours à l'écoute?
Oh, ben absolument, absolument.
Prenez l'acné au sérieux. Un traitement peut empêcher les cicatrices définitives. Mm-hmm. Et surtout, ne faites pas péter les boutons.
Oh, ben oui, mais...
Ne pressez pas les boutons, car cela diffuse l'infection et peut provoquer des lésions. Prenez des cosmétiques à solution aqueuse. Et des produits pour la peau non comédogène et consultez un dermatologue s'il n'y a pas d'amélioration. Ensuite, soyez patient. Il faut parfois 8 semaines et plus pour obtenir un résultat. Et certains traitements cosmétiques, peeling, laser, injection de produits combleurs peuvent atténuer les cicatrices. Et moi, par expérience, je peux vous dire ceci.
Oui.
Le soir, avant de vous coucher, vous avez un petit bouton qui apparaît dans la journée. Prenez un citron. Trempez votre doigt dans le citron et badigeonnez votre bouton. Il va sécher, disparaître. Le citron est exceptionnel. Ça fait disparaître, assécher tout. Hein? Ce qui est bon, il n'est pas prouvé que l'acné soit causée par l'alimentation, mais cette dernière peut l'améliorer car elle agit sur les hormones masculines, la viscosité des cellules de la peau et le degré d'inflammation. Un régime à faible indice glycémique ne générera pas de brusques changements du taux de glucose sanguin. Une étude réalisée sur des hommes atteints d'acné a révélé que les symptômes de ceux qui avaient suivi un régime à faible IG pendant 12 semaines se sont améliorés 2 fois plus que ceux des sujets qui avaient mangé des aliments à IG élevé. Les fruits et les légumes, dont la plupart possèdent un IG faible, renferment des antioxydants anti-inflammatoires. Et les poissons gras contiennent des oméga-3, également bénéfiques. Le chocolat. Si l'on dit souvent que le chocolat aggrave l'acné, il y a en fait peu de preuves pour étayer cette affirmation. En réalité, le chocolat noir, on ne parle pas de n'importe quel chocolat, là. Le chocolat noir contenant jusqu'à 72 % de matière sèche de cacao, Dieu sait que c'est sec du cacao, peut même la faire régresser du fait qu'il constitue l'une des sources alimentaires les plus riches en antioxydants anti-inflammatoires. Et ce qu'il faut éviter, c'est ça le problème. C'est les sucreries et les aliments riches en hydrates de carbone. Avez-vous remarqué les ados qui boivent du coke et des boissons gazeuses toutes sortes d'affaires? Bien là, eux autres, ils sont acnéens. Oui. Ils stimulent la sécrétion d'insuline qui accroît les effets des hormones androgènes et la prolifération des cellules cutanées. Il faut passer au lait de chèvre. Ça, je ne savais pas. Le lait de vache contient des sucres tels que le lactose et des hormones. Et éviter les plats préparés, leurs huiles végétales renferment des oméga-6 qui stimulent les inflammations et diminuer la viande. Alors voilà, c'était pour l'acné ce matin.
Merci beaucoup. Moi, je vous reviens dans quelques minutes avec un sujet montréalais. On remonte en juillet 1852, alors que Montréal est plongé en pleine canicule. Un incendie éclate dans un immeuble près de la rue Sainte-Catherine, près de l'intersection de Saint-Dominique. Et là, Montréal est littéralement en feu. Alors, dans la presse plus, chaque semaine, un pan de l'histoire de Montréal nous est conté. Aujourd'hui, Montréal et ses incendies et ses pompiers. D'ailleurs, à un moment donné, vous nous en parliez un petit peu de l'histoire de la ville
oui,
de Montréal.
Ben oui.
Mais là, finalement, vous êtes revenu sur l'acné, mais c'est pas mal non plus. Hein?
Non.
Non, hein? Non, non, pas du tout. Alors donc, c'est ça. En raison des forts vents et d'un manque d'eau dans les réservoirs de l'aqueduc, les flammes qui avaient pris naissance, je vous le rappelle, au coin de Sainte-Catherine et Saint-Dominique
se
propagent.
En quelle année?
En 1852.
Mais il devait y avoir qu'un édifice?
Non, il n'y avait pas qu'un seul édifice.
Non, pas loin.
Pas du tout. Donc, ça se propage dans un quadrilatère formé par les rues Saint-Laurent, de Maisonneuve, Saint-Hubert et de la Gauchetière.
Hein?
Voulez-vous que je le répète? Saint-Laurent, de Maisonneuve, Saint-Hubert et de la Gauchetière. Okay.
Quand même.
Et alors, le lendemain, en début de soirée, rebelote, un énorme brasier se déclare près des rues Notre-Dame et Bon Secours et détruit tout sur son passage jusqu'à Papineau, au sud de la Gauchetière, vers l'est. Donc vraiment pas très loin de l'endroit où nous sommes en ce moment.
Ouais.
Ce grand incendie de Montréal vient de faire son entrée dans l'histoire de la ville. Lorsque le calme revient, ça va répondre à votre question, 20% du patrimoine bâti, autrement dit, 1112 immeubles a été détruit.
Il y avait 1112 immeubles,
dont 20% ont été détruits dans cet incendie-là, dont la cathédrale Saint-Jacques en construction et l'hôpital général de Montréal. Et comme toute grande ville du monde, Montréal connut de grands incendies, oui, au cours des siècles, qui ont engendré diverses mesures de prévention et de lutte contre les incendies, menant à la formation de brigades permanentes de pompiers. Alors là, on nous fait une recension des principaux drames. Par exemple, le premier incendie répertorié dans l'histoire de Ville-Marie survient le 10 mai 1651.
Ah ouais?
Oui, une attaque des Iroquois est perpétrée contre les citadins et les maisons de Michel Chauvin et d'Urbain Tessier sont détruites. Avant de développer des outils pour combattre les incendies, les responsables avaient développé des moyens pour les éviter ou pour les circonscrire. C'est ainsi qu'en mai 1721, un certain Michel Bégon de la Picardière, intendant de la Nouvelle-France, fait adopter une ordonnance interdisant de tirer des coups de feu dans la ville ou près des bâtiments de campagne afin d'éviter le déclenchement d'incendies.
Parce qu'il y en a eu un grand en 1721.
Oui, ben c'est ça dont j'ai parlé juste avant que vous... Mmh. Moi j'ai parlé de celui de 1852.
Qui est le plus grand.
C'est ça, qui est le plus grand. Et donc là, on parle, parce qu'ils font la recension de tous, là, et il y en a aussi en 1765, qui a ravagé l'hôpital général qui était dirigé par Marguerite Diouville à l'époque. Entre 1798 et 1863, on voit apparaître les premières organisations, souvent privées, destinées à combattre les incendies. À partir de 1841, l'administration municipale commence à nommer des chefs de pompiers volontaires. Et puis, le 22 avril 1863, à l'initiative du maire qui s'appelait Christiane...
En quelle année?
1863.
Oh, je ne sais pas par cœur. Pourtant, j'ai fait une chronique sur les maires de Montréal à une autre station ce printemps, pourtant.
Eh bien, c'est Jean-Louis Baudry. Le règlement, j'imagine que c'est à lui qu'on doit...
Son frère était maire de Los Angeles en même temps qu'il était maire de Montréal.
Alors, nous avons notre tête pensante en histoire ici, en la personne de Christiane Campagna.
Et la rue Baudry, station Baudry?
Oui, sûrement.
Ah bon?
Alors voilà, donc, c'était intéressant dans le cadre de Montréal, 375 ans d'histoire, de voir évidemment tout ça est agrémenté par des photos des premiers pompiers, de leur première tenue, des flammes qui ont ravagé tel et tel édifice et de ce que c'est devenu le lendemain des flammes. Alors bon, voilà, intéressant quoi, c'est sympathique, non?
Ah, moi ça me réchauffe.
Oui, donc restez là, vous nous parlez de quoi dans quelques minutes, Christiane?
De patriotisme organique.
Okay. Alors voyez-vous, on n'est pas sans ressources. À Canalem, quand il en manque deux, pouf, on en trouve deux autres. En l'occurrence, Christiane Campagna, qui est déjà en studio pour venir vous partager à son tour un papier qui peut-être vous aurait échappé.
C'est un papier tiré du magazine Voir, donc l'édition papier, puis tranquille, après, au fil du mois, ils les mettent sur Internet.
D'accord.
Donc, c'est un texte du rédacteur en chef, Simon Jaudoin, qui s'intitule « Patriotisme organique ». À partir du mois de juin, les médias se mettent en mode estival. C'est l'heure des programmations d'été où on invite des vedettes à parler jardinage et barbecue. Oui. Ça me va, je n'y échapperai pas d'ailleurs. Si vous saviez tout ce que je manque comme occasion d'émettre une opinion depuis que nous publions sur une base mensuelle, je suis en retard sur tout, pas moyen de frapper au bon moment. D'ailleurs, à l'heure où j'écris ces lignes, j'ignore ce qui se passera dans les 10 prochains jours. 10 jours, c'est le temps qu'il faut pour mettre en page le magazine, l'envoyer à l'imprimerie et le distribuer dans les présentoirs. Vous voyez un peu le scénario? Je vous écrirai que les fraises viennent d'arriver au marché et pour vous qui me lisez, ce serait déjà le temps des framboises.
Elle est bonne.
Je suis donc condamnée à être en retard. Je dois faire le choix d'être lent. Parler des choses qui ne changent pas ou peu. Comme le paysage, tiens. Je suis une tortue. Il y a quelques semaines, début juin, j'ai mis 5 heures pour faire Québec-Montréal par la 132. Tout le long. Je suis sortie de la capitale par le vieux pont de Québec pour traverser Villieu et Saint-Nicolas. C'était tout de suite la campagne. À Leclercville, un peu après Lotbinière, magnifique vue sur le fleuve et la rivière du Chêne qui se jette dedans. On y trouve une halte municipale entretenue par des bénévoles. J'y ai vu un vieux Westphalia, toute voile ouverte, qui avait élu domicile. Les véhicules récréatifs peuvent s'y arrêter aussi. J'ai pissé et j'ai mis 2 $ dans le truc pour les dons. Il y avait une feuille imprimée au-dessus de l'urinoir qui m'y encourageait. Mm-hmm. Merci les bénévoles. La réalité coûte 2 $, ça me semble OK comme deal. Ouais. Juste en haut, une cantine familiale pour luncher. Le Saint-Émilie, que ça s'appelle. Avec une jolie terrasse, j'ai regretté ne pas avoir faim. Mm. 5 heures donc pour ne pas croiser un Subway machin ou McDo du coude sur l'autoroute et pisser dans un truc qui sent le VIX. J'étais sur la piste de quelque chose. La lenteur. Le temps qui passe. L'odeur du printemps qui se dérobe pour laisser la place à l'été. Je me suis même arrêtée dans un petit bois de peupliers pour voir si je ne trouverais pas quelques morilles en vain. Le rédacteur en chef du Voir est un amateur de champignons. Il me rappelle ça. C'est plus loin, un peu après Nicolet, que j'ai eu une sorte d'apparition. Une expérience totale et intégrale, comme Saint-Paul sur le chemin de Damas, entre Nicolet et Pierreville, très précisément en croisant le rang du petit bois où j'ai failli faire un détour vers Notre-Dame de Pierreville. Je le regrette depuis. En tout cas, j'ai eu une apparition, une sorte de « peak experience », comme on dit en latin. Je venais de découvrir le patriotisme organique. Une odeur, un coup de vent, un rayon de lumière sur les terres. Rien dans la tête, tout dans le nez et les yeux. Un paysage pas toujours beau, souvent laid, mais où je sais par cœur comment me faufiler avec les repères appris je ne sais trop quand. Prends ce chemin, ça va déboucher au bon endroit. Évidemment, je ne savais pas à ce moment-là ce qui m'arrivait. J'ignorais aussi que le Brexit allait occuper le devant de la scène 2 semaines plus tard. Coquin de sort quand même. Le Royaume-Uni, par voie de référendum, allait choisir de quitter l'Union européenne le jour même où, ici, nous allions célébrer la fête nationale. Ce fut la totale. Pour plusieurs, le peuple, au singulier, avait fait entendre sa voix, au singulier encore. Une voix contre les élites mondiales transnationales. Remarquez ici l'assemblage entre le singulier et le pluriel. Le peuple se bat seul, unifié, uniforme contre une menace multiple, tentaculaire. Ajoutez le mot référendum et ça donne une boisson forte parfaite pour le party. Mm-hmm. Ça m'a fait sourire. Mathieu Bock-Côté a bien écrit 22 statuts Facebook et une demi-douzaine de chroniques à ce sujet. Ah, le peuple a parlé. Écoutez ce qu'il vous dit un peu. J'ai quand même une question plate, si je peux me permettre. Toute conne. Je m'en excuse à l'avance, mais le peuple qui a parlé lors de ce référendum, c'est quelle moitié au juste? Le 48,1 ou le 51,9? Vous me direz ça un jour. Pour revenir à ce périple routier, j'ai lâché la 132 à Sorel pour faire un détour par l'autoroute 30 à cause du trafic. J'ai repris la petite route à contre-cœur. C'est joli jusqu'à Varennes où ça se gâche un peu. J'ai quand même eu le temps au retour de la route d'aller discuter avec Bruno chez Biri au marché Jean Talon. J'achète mes plants de concombre libanais aux Italiens depuis que je possède une truelle et un coin de jardin. Cette année, avec le coup de froid début juin, ils se sont écrasés comme des crêpes humides. J'ai planté trop tôt. Bruno m'en a refilé des nouveaux qui vont plutôt bien depuis. J'espère que mes vieux plans ne m'en voudront pas trop. Je les ai arrachés. Plus rien n'allait sortir de là. Attendez un peu de voir ma salade grecque du jardin. Pour le fromage feta, je vais essayer celui du troupeau béni de la fromagerie du monastère Vierge Marie la Consolatrice à Brownsburg. Ça devrait le faire.
C'est bon, excellent. Un beau petit texte estival. C'est vrai que ça fait du bien de prendre son temps. Quand je prends la voiture aussi en vacances, là, j'essaie d'éviter les autoroutes de façon générale, parce que c'est vrai qu'on voit des choses extraordinaires.
Oui, c'est vrai.
Qu'on voit absolument pas sur autoroute, c'est vas-y quoi, tu pars du point A pour aller au point B, mais sur les petites routes, quel bonheur. Merci beaucoup, Christiane. Nous vous retrouvons en seconde partie, peut-être. Non.
Oui. Marianne est arrivée.
Ah.
On va vous l'envoyer.
D'accord. C'est bon. Merci. On a le temps pour des petites brèves. Avez-vous des petites brèves pour
nous? Ben oui, un vent nouveau. D'ici quelques années, vous pourrez peut-être installer une éolienne dans votre cour.
Ah oui?
Oui. L'entreprise française New Wind entend produire pour 2019 une version abordable, moins de 22 000 $ canadiens, de son arbre à vent, une éolienne urbaine en acier destinée à subvenir aux besoins d'une famille de 4 personnes. Mm-hmm. Intéressant.
Ben oui.
Commercialisé en Europe au prix de 67 600 $ canadiens, l'arbre actuel fonctionne au moyen d'une soixantaine de petites turbines silencieuses en plastique, dont la forme et les couleurs appellent les feuilles. C'est joli. Hein?
Oh, très
New beau. Wind devrait y ajouter des racines géothermiques et développe aussi une version écolo, mariant bois et fibres naturelles. Super sympathique.
Ah, ben oui, on aime bien ça. Ah ben tous oui. À la plage. Vous savez, pour fabriquer des châteaux, le fabricant de Château Alto, ça ne coûte pas cher. On parle des produits CUT ou COUT. Ça s'écrit Q-U-U-T en vente chez Mère Hélène. Eh bien, si vous avez envie de jouets pour la plage, différents, amusants et en prime au joli design ergonomique, eh bien, vous pouvez lorgner du côté de la marque CUT, la Q-U-U-T. Conçu par l'agence de design belge Pars Pro Toto, P-A-R-S, plus loin Pro, P-R-O, plus loin Toto, comme la tête à Toto, et offerte depuis peu au Québec dans les 4 boutiques et sur la boutique web de Mère Hélène. Honnêtement, je ne connais pas du tout cette franchise-là, mais par Mère Hélène, comme la maman Hélène,
oui.
Vous pouvez trouver ça par Internet. La gamme aux couleurs acidulées est éco-responsable, puisque tous les produits sont 100% recyclables et ne contiennent ni PBA, ni phtalate, ni latex. Multifonction, les jouets peuvent aussi s'utiliser dans le bain et même dans la neige. Des heures de plaisir en perspective pour vous fabriquer des jolis châteaux, par exemple. Serge.
Alors, c'est l'été. Aimez-vous les cornets?
Oui, les
alors,
cornets de glace.
Alors, il y a
oui.
Amateurs de crème glacée, réjouissez-vous. Des chercheurs des universités écossaises de Dundee et d'Édimbourg ont découvert une protéine naturelle qui en ralentirait la fonte sans en changer le goût. On parle du cornet.
Ah oui?
En y ajoutant la protéine qui lie l'air, la matière grasse et l'eau, les fabricants rendraient également sa texture plus crémeuse, car cette protéine empêche la formation de cristaux de glace. Armez-vous de patience, cependant, il faudra attendre entre 3 et 5 ans pour pouvoir y goûter. Bon. Et puis aussi, il y a la pâte à tout.
La pâte à tout.
Le dentifrice ne sert pas qu'à laver les dents, il peut aussi nettoyer les marques de crayon sur les murs.
Non.
Les semelles de caoutchouc.
Ah oui?
Oui. Les taches sur les tapis. Et aussi mes vitres d'auto, les phares d'auto,
oui,
les vitres.
Oui, hein? Oui.
Alors allez-y avec la pâte à dents, c'est merveilleux.
Mais ah ça oui. Coûte cher quand même. Attendez,
la pâte à dents?
Bah oui.
Oui, un lance spécial. Alors touche de piano, polissez-les avec une brosse à dents. Puis celles que vous n'aimez pas, des fois, on achète et on ne les aime pas. Non.
Non, c'est vrai.
Alors, touche de piano, polissez-les avec une brosse à dents recouverte de dentifrice, puis asséchez-les à l'aide d'un linge humide. Et surtout, c'est parce qu'il y a du soda à pâte là-dedans.
Ben oui.
En fait, c'est le soda à pâte qui
alors,
nettoie.
Alors, prenez moi, donc genre, du soda à pâte.
Eh bien, voilà. La petite vache.
Mais la petite vache. Oui, vous nous parliez de boutons puis de citrons.
Oui.
Moi, j'ai ma petite Philomène qui nous fait des petits boutons d'allergie à cause du soleil et
voilà.
Tout. Je te frotte ça, toi,
bicarbonate de soude.
Le lendemain, c'est terminé.
Eh bien, voilà.
Alors, ça coûte moins cher que le 50$ pour avoir de la cortisone chez votre vétérinaire. On se retrouve dans quelques secondes. Voyez-vous, c'est ça, les voies de service. On a plein de trucs à apprendre.